Bonsoir, bienvenue pour cette dernière heure passée en compagnie de Denis Bajram. Donc on peut dire de Denis qu'il est presque le créateur d'une nouvelle école de bande dessinée à la française avec à l'époque Mathieu Loffret, ancien éditeur avec Cadran Solaire, ancien, je dirais, créateur d'univers et créateur d'univers tout court avec Universal War, dont il va peut-être nous parler au cours de sa démonstration. Universal War, donc, dont la série est a priori en train d'être adaptée au cinéma.
Oui.
J'espère qu'on l'aura ici bientôt. Donc Denis va nous faire le plaisir de nous amener dans la cuisine de son atelier pour nous expliquer un petit peu comment il travaille. On va le voir travailler en direct. Donc bienvenue pour un petit moment convivial. Moi, je vais passer parmi vous. Il y aura des micros qui vont se promener dans le public. Donc n'hésitez pas à l'interrompre. N'hésitez pas à lui poser des questions. N'hésitez pas à l'embêter un petit peu sur ce qu'il est en train de faire, sur l'outil Ellipse, sur Photoshop, sur... L'utilisation des calques sur les choses que vous ne comprendriez peut-être pas ou en tous les cas que vous avez envie de creuser. Donc n'hésitez pas à l'interrompre et à lui poser des questions. Donc à toi, Denis.
Alors en fait, je suis déjà venu plusieurs fois à l'Utopiale et j'ai montré comment je travaillais en BD et en illustration. Je me suis dit qu'il fallait que je me renouvelle un petit peu. Et j'avais pas d'idée avant d'arriver. Et les idées, je les ai eues en passant la porte le premier jour où j'ai débarqué, en voyant les Legos. Je sais pas si vous avez vu tous ces splendides vaisseaux en Lego, mais ça m'a ramené à une des raisons qui fait que je fais de la SF aujourd'hui. Les Lego, je faisais à l'âge de 6 ans chez moi avec des vaisseaux spatiaux. Et je me suis dit, tiens, je vais leur montrer comment je fais des vaisseaux spatiaux. Parce que, bah voilà, on est sous la protection de Manchu, Dieu est maître dans le domaine. Et puis finalement, la SF et les vaisseaux, c'est vraiment le truc qui marche ensemble. Alors, je me suis demandé, on n'en parle jamais en fait. Je ne sais pas si vous connaissez même le nom d'un designer en vaisseau spatial. Sid Mill, parfois, les gens connaissent ce nom-là. Il a bossé un peu sur Blade Runner, Alien, ça dit vaguement quelque chose. Ron Cobb, encore moins connu. Puis derrière, c'est les oubliettes. Pourtant, l'air de rien, quand on regarde Star Wars, un bon petit design de vaisseau, ça fait une sacrée différence. Et tout le monde a chez soi un bout de vaisseau de Star Wars, je pense, d'une manière ou d'une autre, sur un mug ou sur un poster sur un mur. Et c'est vraiment un truc très particulier, parce que c'est quand même pas du design de voiture, c'est quand même pas du design d'appartement, c'est vraiment un truc bizarre, parce qu'on essaie de penser à un machin qui n'existe pas. Alors, je vais vous montrer un petit truc que j'ai compris un jour, parce que je me posais beaucoup de questions, j'en faisais depuis que j'étais gosse, je copiais un peu ce qui existait, c'était plus ou moins des dérivés de vaisseaux existants, etc. Et puis, j'ai commencé à chercher un moyen d'avoir des formes originales. Alors, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, tiens, finalement... On pourrait faire un vaisseau avec un micro. Bon, sans fil peut-être, parce que pour le vaisseau, c'est pas très pratique. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que les autres ont bossé comme ça? Alors, je suis venu avec ma petite caméra et mes petits objets, parce que assez vite, dans mon atelier, j'ai trouvé quelques vaisseaux bien connus. Oh, c'est moi. Alors, tous les dessinateurs ont des pinces à dessin. Alors, ça, c'est les modèles des années 70-80, ça. Tout le monde a un cutter. Ah, normalement. Bien caché pour que la police ne le trouve pas. Donc voilà un petit cutter classique. Vous voyez. Puis on se dit, bon, bah, on pourrait faire un vaisseau avec ça. On essaye, on bricole, on fait, ouais, ça ferait des ailes. Hop. Et puis, on se dit, tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose. Ah, il y a même R2-D2. Je suis persuadé, intimement, parce que j'ai vu les dessins des premiers designs, où il y avait un réacteur coupé en deux, comme ça, avec exactement cette forme-là. Je suis persuadé que c'est comme ça qu'il est né. Et ce petit T-Swing. Et je pense qu'il y a une bonne partie des choses qui naissent comme ça. Alors, on le fait peut-être avec les mains, avec un vieux rouleau de scotch. Quand on voit certains vaisseaux, on se dit, oula, moi j'ai reconnu un rouleau de scotch que j'avais une fois. Vous voyez, il faut qu'on millénium avec son petit côté. Prend un rouleau de scotch, on joue un peu avec, on se demande, on met un capuchon d'un côté. Voilà. Puis on fait ça en tête après, parce que bon, j'ai un peu grandi, maintenant j'ai plus besoin de faire mes Lego, donc je réfléchis à ça. Mais fondamentalement, c'est toujours le même système. C'est-à-dire que c'est une manipulation de forme, parce que. Un beau vaisseau spatial, c'est avant tout des belles formes. À ça, quand on vieillit, se rajoute un deuxième type de questionnement qui est Oui, mais bon, c'est beau, un beau vaisseau, mais je vais peut-être essayer de faire un vaisseau qui fonctionne. C'est quoi un vaisseau qui fonctionne? Donc on réfléchit. Bon, il ne marche pas, a priori, avec un moteur à explosion et des hélices. Peut-être même pas au pétrole. Voilà. Et très vite, on en arrive à réfléchir à une mécanique de vaisseau, à des fonctions intérieures. Ou qu'est-ce genre de moteur? Comment ça marche? Est-ce que ça va voler en atmosphère? Est-ce que ça va voler en uniquement dans l'espace, etc.? Et c'est des questions que je me suis posées sur Universal War One, très vite. Alors j'avais décidé que j'avais l'antigravité. Donc a priori, pas besoin de moteur. Donc j'aurais dû faire des trucs sans moteur. Alors un truc sans moteur... je suis pas dans Photoshop. C'est bien joué. C'est micro tout petit chez moi. Ça ira. Ah, j'ai un problème de d'étalage de tablette. Ça promet, bon. 2 secondes, je vais régler ça parce qu'autrement, on ne va pas y arriver. Les mystères de la technologie.
Si vous avez envie de lui demander la marque de son cutter, n'hésitez pas.
Ouais, ça a l'air d'aller jusqu'au bout, là. Donc, ça sera comme ça.
Tu parlais de Speed Mill tout à l'heure. Sans faire de scoop ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qu'on aimerait bien avoir ici, oui.
Bah, quand il revient, tu me préviens. Hein.
Je pense que tu seras là, oui.
Alors, je suis toujours un peu perturbé parce que chez moi, je travaille sur un ordinateur un peu plus gros, un peu mieux foutu. Donc, vous inquiétez pas, il y a des petits blancs pendant lesquels je réfléchis. Voilà. Donc, c'est quoi un vaisseau sans moteur? Bon, a priori, il y a un fauteuil. Il y a un bonhomme dessus. Bon, on va dire qu'on va faire des vaisseaux pour des humains. Parce que... Bon, il y a un truc autour pour qu'ils puissent balader. Bon, il y a un peu de technologie. On va dire qu'on va le mettre autour. Bon, et quand on a fait ça, on se dit qu'on a un problème. Parce que, a priori, même si je travaille bien ce dessin, quand j'aurai fait un vaisseau en boule, puis la version cubique après, on aura un peu fait le tour de l'exercice. Donc, évidemment, c'est pas très intéressant en termes de pure fonction. Alors, immédiatement, moi, je me dis, il faudrait quand même que c'est un peu plus allure. Alors, on va dire qu'ils doivent pouvoir descendre dans l'atmosphère, comme ça... Ça va obliger à faire des formes un peu aérodynamiques, ça va être un peu moins chiant qu'un simple vaisseau dans l'espace. Alors c'est quoi des formes aérodynamiques? Donc on va réduire un peu notre bonhomme. Hop. Vous allez avoir des superbes dessins encore quelques temps comme ça. Donc c'est une verrière autour, un nez, voilà. Ah ouais, mais il n'y a pas de réacteur, parce que j'ai dit que c'est un truc anti-gravité sans moteur. Bon, tant pis, j'en mets quand même, parce que c'est joli. Et vous voyez, on se met à réfléchir, et puis à un moment, on est dans la merde. Ah, puis serait bien qu'il y ait une aile derrière. Ah, mais tiens, ça ressemble de plus en plus à l'avion Barbie. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, évidemment, on se dit, OK, je vais repartir d'autre chose. Et là, on retourne à la méthode d'origine. On se dit, ouais, mais dans ce cas-là, il faut que c'est de la gueule. On va partir d'une forme initiale. Ah ouais, si je faisais un vaisseau totalement plat et triangulaire. Ah ouais, mais je sais pas où je mets le mec dedans, là. C'est assez problématique, le design de vaisseau, vous voyez, parce que ou on fait un truc logique, ou on fait un truc esthétique. Et les deux, en même temps, ça n'existe pas. En fait, si. Quand on réussit les deux, on a réussi. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que ce serait trop facile que je vous fasse un vaisseau que j'ai déjà fait. Il faudrait qu'on trouve un moyen que je parte d'un truc que je n'ai jamais fait. Si quelqu'un a un objet bizarre, là, ça m'arrangerait bien. Il n'y a personne qui a un objet bizarre à me tendre, au hasard. Je n'ai jamais fait encore. Hein. J'espère que je ne vais pas être piégé totalement.
Allez, n'ayez pas peur.
Et pas un téléphone. Hein. Premier objet bizarre qu'on m'apporte... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une gomme. Ah, mais c'est un peu trop... Non, je l'ai perdu. Ah ben. C'était quoi? Où est-il?
Il y a un deuxième objet bizarre là qui arrive.
Ah. Oh, alors ça...
Ah ouais, là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd.
Complète. Je crois que c'est ma carrière s'arrête ce soir. D'accord, on regardera. C'est un... Vous voyez, c'est... Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un poisson. Alors, en fait... Bah, si, c'est pas mal, en fait. Hein. On va partir de là. Donc la forme, en gros, on va la refaire à la louche. Hein. Ce que j'aime bien, c'est les petites pointes pour fermer. Bon, là, ça fait un peu... on mettrait des petits yeux, là, on aurait un joli extraterrestre. Mais, et puis un chat avec un chat sur le ventre. C'est ça l'idée. Alors les pointes qui déplacent un peu. Ben, c'est exactement le genre de choses qui m'oblige à réfléchir. Vous voyez, le cerveau se met en route. Parce que je ne peux pas faire un vaisseau avec ça. Mais j'aime bien les pointes qui dépassent. Parce que ça donne tout de suite l'impression qu'il y a des modules pour installer quelque chose dedans. S'il y en a deux, le chat, je ne sais pas si je peux en faire quelque chose, mais si je l'inversais, ça me pourrait me faire des sorties d'un truc derrière. Les oreilles du chat qui sont dessus. Bon, le poisson, là, je dois dire que je pense qu'on va arriver au stade où... Alors, il y a une sorte d'arceau, là, pour ouvrir le porte-monnaie. Je pourrais peut-être vider ça. Et me dire que c'est un arceau parce qu'il y a une séparation entre une zone qui, au lieu de contenir de l'argent, contiendrait de la marchandise, par exemple. Ah ouais, il y aura un truc, et donc avec les oreilles du chat derrière. Bon, alors là, évidemment, je ne peux plus en faire grand-chose, mais je vais essayer de voir si, en mettant ça déjà en profil, j'obtiendrai pas un truc plus intéressant. Et vous voyez, ça déforme. Jamais j'aurais eu idée de m'embarquer dans un vaisseau comme ça. Alors celui-là, il n'a pas l'air de vouloir voler dans l'atmosphère. Quoique, si je l'allonge un peu, que je reprends un peu le principe du porte-monnaie. Là, si Manchu est là, il doit s'évanouir, je pense.
Profite-en, il est pas là.
Il se dit, ce type se revendique vaguement d'être dans mes héritiers, il faut que je trouve tous les moyens, que personne ne le croit. Ouais, je pense que je peux faire un truc, en fait. En prenant encore un peu les ailes du le chat. Je vais vous rendre le porte-monnaie, parce qu'autrement, il va terminer dans ma poche. Les auteurs, c'est de plus en plus mal payé, donc je vous lance. Ah, oh, pardon. Bah, je crois qu'on va partir là-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous éviter toutes les étapes de recherche. Je vais chercher directement en mode illustration. Le mode illustration, c'est fond noir. On va se mettre à l'horizontale, ce sera plus sympa avec le format de l'écran. C'est fond noir, on fera des étoiles à la fin, et je vais essayer de travailler en lumière. Alors, un petit tour sur Photoshop rapidement, vous avez dû voir que j'utilise Photoshop de manière très simple. Outil rond, je fais des traits avec. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est une tablette graphique. En gros, quand je déplace, ça bouge le curseur. Quand j'appuie, ça fait un trait. Quand j'appuie fort, ça fait un trait épais. Quand j'appuie doucement, ça fait un trait pas épais. Ça a été inventé pour les Japonais au tout début de l'ère du Macintosh, parce qu'ils voulaient pouvoir continuer à faire de la calligraphie. Ils ne s'envisageaient pas de passer dans ce monde froid et monstrueux de la typographie moderne. Bon, ils l'ont fait finalement, mais de fait, ils nous ont fourni ce superbe outil qui, comme il est prévu pour la calligraphie, respecte vraiment le geste, et ça, c'est formidable. Aujourd'hui, 99% des gens qui travaillent en informatique travaillent directement sur écran. Ils ont des écrans tactiles qui s'appellent des Cintiq, qui permettent de dessiner avec stylet directement dessus. Moi, je suis un vieux con, j'ai appris avec ça. Donc, j'utilise toujours ça, parce que fondamentalement, comme ça, ça m'évite de mettre mes gros doigts sur l'écran et de nettoyer toutes les 2 minutes. Et pour d'autres raisons que je pourrais expliquer aux curieux. Alors, on va remettre du noir. Je vais faire que mon outil soit à 30%, parce que je veux travailler dans un mode un peu peinture. Donc, le mettre à 30%, ça veut dire qu'il ne marchera pas. On va l'agrandir un petit peu. Je vais me sembler un peu petit. Vous voyez, il ne marche pas. J'avais du blanc. Je suis obligé de passer 3 fois. Enfin, même pas. Là, je ne suis pas encore au blanc parfait. Voilà. C'est bien parce que ça me permet d'être dans un rendu plus souple. Hop.
Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas.
Alors, on va reprendre notre histoire. Bon, je vais mettre un petit soleil dans le coin.
Il y a une question.
Comme ça, j'aurai de la lumière sur mon vaisseau.
Donc, bonsoir. Je voulais savoir si vous n'utilisiez jamais de brosse du tout. Genre, mais jamais de brosse, quoi. Même pas pour des effets...
J'utilise des brosses quand je suis... Alors, j'ai une brosse que je vous montrerai à la fin, quand je veux travailler salement. C'est la même, mais avec des trous. C'est, en gros, le remplacement du pinceau qu'on a laissé sécher dans un... dans la peinture et qui après ressemble plus à un balai à chiottes, pour être honnête, qu'à un pinceau. Donc j'ai, voilà, j'ai mon balai à chiottes et mon balai propre. J'évite de les mélanger. Voilà, c'est cette chose. Je vous montrerai enfin, à la limite, je ferai un petit coup de style à la fin avec. Mais c'est les seuls outils que j'utilise. Vous voyez, on retrouve les têtes de mon porte-monnaie, là, l'arceau que je trouvais sympa. On va faire le volume à l'arrière. Bon, j'ai commencé. Alors là, les jouets de l'informatique, hein, quand on est incapable de faire... Ah, pardon. Quand on est incapable de faire un cadrage correct dès le départ, on corrige. Et alors, très souvent, je cherche justement dans ce mode illustration, parce que si j'arrive pas à cracher une belle image d'ambiance sur mon vaisseau, ça sert à rien que j'aille plus loin sur son design. Pour ceux qui reconnaissent, c'est les oreilles du chat. Hein. Enfin, on commence à s'éloigner. J'ai bien pris un objet pour nourrir mon imaginaire, pas pour le faire. Ça n'a pas d'intérêt en soi de faire voler un porte-monnaie, ni même de se faire voler son porte-monnaie, qui est encore... Ceux qui en ont marre des jeux de mots peuvent appuyer sur la touche F1. Ceux qui veulent que je continue, ils font F2. On devrait avoir des votes comme ça, ça serait bien. Alors, ouais, bon, les deux boules là, à la même taille, ça m'ennuie, j'en fais une plus petite. Ouais, je le sens bien. Bon, on va faire le vaisseau. Alors, est-ce qu'il est blanc, mon vaisseau ? Est-ce qu'il est toutes les couleurs ? Est-ce qu'il est rose ? On avait un porte-monnaie rouge-rose. Alors, les vaisseaux roses dans l'espace, comme tout le monde n'a pas accepté le mariage homosexuel pour l'instant, dans l'espace, c'est un peu dangereux. Mais ça pourrait être une idée. On va commencer à le faire un peu tôt en lumière. Bon, alors c'est un peu ennuyeux comme image, je vais quand même essayer de vous faire un peu le spectacle. Donc je vais vous mettre une planète. Vous avez payé. Ah ouais, c'est un peu mieux avec une planète. Ah, et puis on va se mettre un ou deux petits vaisseaux porte-monnaie autour qu'on va terminer. Bon, là, pour l'instant, c'est pas hyper convaincant. Mais on doit voir quelque chose. Alors, la couleur. Zwip. Une géante gazeuse rouge. Hein. N'importe quoi dans le genre. Oula, Sam. Alors, je ne suis pas en train de faire le clown. Hein. Je travaille exactement comme ça à la maison. Couverture d'Universal War One, c'est fait comme ça. Les images que vous avez vues tout à l'heure sont faites comme ça. C'est vraiment ce genre de mise en place que je fais. Et comme j'ai une bonne demi-heure devant moi, je vais pouvoir la finir, cette image. C'est pas merveilleux ? Surtout si vous ne posez pas de questions. De l'autre côté, il faut en poser parce que ce sera quand même plus intéressant.
Une question, tiens.
Est-ce que tous les albums sont déjà finis ou ce vaisseau sera dans un prochain album ?
Alors, ils ne sont pas finis. Je ne sais pas, si je veux faire passer un message sur l'argent à un éditeur, dessiner un porte-monnaie d'espace, ça pourrait être une idée. Donc, il faut que j'y réfléchisse. Bon, pour l'instant, les affaires vont bien, donc je n'ai pas de raison. Mais bon, la crise étant ce qu'elle est. Alors, j'avais commencé à dessiner vu du dessus, puis finalement, je fais du dessous parce que c'est plus rigolo.
Là, tu parles de la prochaine demi-heure. Il te faut combien de temps pour faire une illustration comme une des couvertures ?
Ça va être très variable. Par exemple, la couverture Universal War II, celle qui l'ont... Je peux vous montrer ça, il y en a pour deux secondes. Sauf si je tombe là-dessus. Ah ben, celle-là. Oui, pardon. Donc ça, celle-là, c'est une des plus rapides que j'ai jamais fait. J'ai fait le rough avant de genre à 11h du matin. J'ai été manger et elle était finie à 16h ou 17h. C'était intense. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de gros problèmes techniques. Les soleils, j'en avais fait un petit paquet dans la série, donc je suis un peu un jour sur la manière de rendre ça. Les vaisseaux sont vus de dos, en contre-jour. Il n'y a pas beaucoup de techniques de dessin là-dessus. Il n'y a pas de bonhomme hyper réaliste à dessiner. Donc en fait, ça a été assez rapide. C'est clair que ça, c'est scandaleux en termes d'efficacité. Il y a d'autres couvertures qui m'ont pris 4 jours. Hein. Donc, il n'y a pas de... La couverture du 2, où elle est de face, composition très classique. J'ai passé beaucoup de temps dessus à la régler, parce qu'un coup, elle était trop chiante, un coup, elle était trop sympa, un coup, elle était trop classique, un coup, pas assez. Donc voilà, c'est des images qui ont été très longues. Donc, c'est vraiment très inégal. Mais le temps, il n'est pas passé à dessiner réellement, il est passé à faire l'image, à l'affiner. J'ai tendance à avoir des rendus rapidement assez définitifs que je modifie après. C'est-à-dire que j'aurais tendance à je sais pas comment dire ça, à chercher en état définitif. C'est-à-dire que je fais du rough avec le résultat final. Ah. Vous avez remarqué, quand je fais une erreur, j'ai tendance à pas faire à annuler, contrairement à beaucoup de gens. Je continue parce que ça nourrit les matières. Alors, les couleurs se mélangent naturellement, parce que mon outil est semi-transparent. Et les couleurs qui se mélangent, je peux les récupérer avec la petite pipette et donc les utiliser ailleurs. Donc je crée la gamme colorée à la volée, comme ça.
Il y a une question.
Oui ?
Alors en fait, il y en a plutôt deux. Alors il y en a une première, c'est plus une remarque sur la manière dont vous abordez l'outil. Parce que finalement, tous les illustrateurs que j'ai vus jusque-là à présent, ils étaient plusieurs calques, du CTRL-Z en voiture en voilà, et vous finalement, c'est tout l'inverse. Vous êtes plus finalement sur une vraie feuille que sur un outil numérique, tout en ayant l'outil numérique à la fois. Et l'autre, c'était une question par rapport justement à tout ce qui est tablette maintenant qui sont tactiles. Et au dessin directement dessus, ce que je me rappelle de Benjamin Carré, Alexis Briclot, qui en parlait il y a maintenant 10 ans ici, et qui disait que finalement, c'était une horreur de retrouver son bras devant la feuille, de ne plus voir tout ce qu'on faisait.
Oui.
Et justement,
oui.
Ça me paraissait bizarre de les voir, eux, aujourd'hui, venir là-dessus, alors que finalement, c'est tellement fantastique de rien voir, d'avoir accès à tout directement.
Moi, alors chez moi, en fait, j'ai deux écrans. J'ai un écran où il n'y a même plus de menu, où il n'y a plus rien, il n'y a que le dessin. Et un deuxième écran où il y a tout le système, les palettes Photoshop, etc. Ce qui fait que j'ai même pas d'informatique dans mon dessin. Alors ils remettent la main, pitié quoi. Il y a un truc que les dessinateurs connaissent bien, c'est quand ils font un visage, il y a une petite tendance à toujours à pencher d'un côté, à avoir du mal à faire la symétrie parfaite. Moi, depuis que j'ai plus la main dans le dessin, j'ai plus ce problème quasiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était la main cachant la moitié du dessin qui faisait un poids et qui faisait que le cerveau travaillait et compensait cette main-là. Donc c'est un problème assez connu. Alors à l'époque du papier, on le résolvait en retournant sa feuille, en regardant la lumière, on faisait « Ah, ben, elle est toute travers » et on corrigeait. Et c'est des choses comme ça. La présence de la main, c'est une masse. On pense en masse quand on dessine, quoi. Et on se met une masse blanche, rosace, enfin plutôt blanche parce que je ne sors pas assez, et dans le dessin, et ce n'est pas une bonne chose. Là, évidemment, je pense dessin. Alors là, j'ai mes petits menus, ils m'agacent, hein, l'œil depuis tout à l'heure en plus. Parce que je... Bon, c'est un peu ennuyeux. Vous voyez, je picore des couleurs de... Oh là, quand même pas. Je picore des couleurs de tous les genres que je superpose. Alors, ce que je ne vais pas vous faire à la fin, j'essaierai de le faire le plus loin possible, mais c'est le moment où je plonge dans la précision. Parce que quand j'ai commencé à mettre ça en place, il y a un petit moment de finish à la fin qui dure deux fois le temps de la mise en place et qui est la partie longue. Ça, je n'aurai sans doute pas le temps de vous faire dans le dessin en 4 heures. Il va me manquer les 2 heures de finition, quoi. Mais j'essaierai de finaliser un petit coin que vous ayez une idée... Alors, typiquement, mon vaisseau. Alors, parlons de design de vaisseau. J'ai décidé de faire un joli arceau. OK. Il est accroché Ah, alors l'informatique, c'est le royaume du zoom. Alors, quand j'étais petit, je n'étais pas grand déjà, mais... J'admirais les dessinateurs capables de faire des ronds, des ellipses, etc. Et je me disais, jamais j'y arriverai. Et en fait, quand j'ai découvert Photoshop, je me suis dit, c'est génial, ça fait des ronds tout seul. Et en fait, comme ça faisait des ronds tout seul, j'ai commencé à faire des ronds avec. C'est des ronds tout chiants. Donc j'ai finalement dû apprendre à faire des ronds au bricolage, comme ça. Et ça fait partie des choses qui font qu'à l'arrivée, ce n'est pas une photo, mais un dessin. C'est-à-dire quelque chose qui a une vibration, des imperfections de la vie. J'adore ça. Et à chaque fois que j'ai tenté 1 millième de seconde de faire de la 3D, je me suis trouvé face à des mathématiques. Donc, sur un logiciel qui fait des maths, parce que Photoshop fait des maths, hein, c'est la couleur parfaite, utilisant des formes faites par un générateur de mathématiques qui est un logiciel de 3D. Et je me suis dit, jamais. Je ne vais pas laisser les ordinateurs et les mathématiques contrôler ma vie. Puis après, j'ai acheté 10 ordinateurs pour montrer que j'étais un vrai geek. Mais voilà, c'est vraiment un côté, le secret pour moi du dessin numérique qui ne se voit pas, c'est de le faire à la main. Et quand je dis à la main, bah, vous êtes en train de voir ce que je fais.
Vous voulez toujours pas lui poser des questions ? Ah oui, quand même.
Pardon ?
Oui, bonsoir. C'est juste une question par rapport aux outils qu'on voit à l'écran. Je reconnais pas l'outil circulaire qui apparaît avec des degrés gris quand vous déplacez la souris. C'est lequel ? Qui clignotait épisodiquement tout à l'heure ?
L'outil circulaire, celui-là ?
Non. Avec les couleurs. C'était sur le dessin.
Ça ?
Non.
Ça devait être la pipette, parce que j'utilisais que ça. Hein. Donc c'est ou l'outil rond mis en mode croix, c'était pour pas qu'il gêne. Mais
c'était
voilà.
Quand vous étiez en train de colorer.
Ou peut-être un outil de
oui,
sélection.
Oui, celui-là qui vient d'apparaître.
Ah, celui-là. Ah oui, c'est parce que. Oui, je ne sais pas.
Non, c'est.
C'est la pipette, mais voilà, c'est la pipette. Ça. Ah oui, c'est la pipette quand je suis dans le mode. Voilà. C'est aussi la pipette, mais dans le mode affichage croix du. En fait, j'affiche en croix pour ne pas avoir le curseur devant le nez. Quoi.
D'accord.
On peut afficher en rond, et à ce moment-là, la pipette, ou on peut afficher en croix, et à ce moment-là, l'outil devient celui-là, qui est la pipette, en fait. Donc, c'est bien la pipette. Donc, je passe mon temps à récupérer la couleur dans le pinceau. Alors là, j'arrive au moment où, sur des détails, je commence à avoir des petits problèmes avec mon pinceau épais, donc je vais... Ah, ça m'agace, cette version. Merci. Et pendant ce temps-là, il y en a qui parlent de Dick, vous vous rendez compte ?
Une question.
Bonsoir, je voudrais savoir pourquoi vous utilisez Photoshop, alors que vous n'avez pas besoin, vous utilisez qu'un pour cent de sa puissance, alors qu'il existe peut-être des logiciels plus orientés vers la peinture ?
Alors, les logiciels orientés vers la peinture qui existent, type Painter, par exemple, qui est bien connu dans ce domaine-là, sont tous orientés vers la peinture. Ils font très bien de la peinture. C'est-à-dire qu'ils font le boulot à ma place. Première fois que j'ai utilisé Painter, j'ai pris l'outil aquarelle, j'ai mis sur la feuille, j'ai posé un truc d'aquarelle et oh, de l'aquarelle. Alors c'est marrant, quand j'étais au Beaux-Arts, on m'a fait acheter une boîte d'aquarelle, j'ai pris l'outil aquarelle, j'ai fait plotch et c'était moche. Je me suis dit, il y a un problème. Parce que normalement, ces outils-là, ils ne se maîtrisent pas en une minute. Et alors, ces logiciels-là sont optimisés pour faire du beau, et qui est un beau défini, qui est un beau occidentalo-américain. Et on est obligé de les contourner en permanence pour leur sortir autre chose que leur rendu naturel. Photoshop, il est optimisé pour faire rien, la retouche photo. Il est naturellement, quand je fais plotch avec Photoshop, c'est aussi moche qu'avec mon aquarelle, peut-être un peu plus même. Et ça m'a obligé à dompter l'outil. Et donc, c'est moi qu'on voit là, c'est pas Photoshop. Tous les autres outils très sophistiqués, il y a un truc qui s'appelle ArtRage. Short ArtRage, alors c'est un truc peinture à l'huile. Je fais une espèce de tête d'un de mes personnages. Une demi-heure après, il y a le machin, on le met en galerie, tout le monde fait « Oh !» C'est pas normal. C'était naturellement, ce truc crachait de la belle peinture. Mais enfin, toute personne qui a fait de la peinture sait que naturellement, ça crache de la merde, quoi. C'est un cauchemar de contrôler l'huile, quoi. Ça vient pas tout seul, quoi. Quelque chose qui vient tout seul, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous assiste. C'est des assistants. Et moi, les assistants, j'en veux pas. C'est moi qui fais le boulot, c'est pas mes assistants. Et surtout, si ces assistants, c'est les mêmes que tous les autres illustrateurs qui travaillent en numérique. Moi, je trouve quand même que dans le speed painting, dans l'illustration de jeux vidéo actuels, etc., dans tout ce monde-là, tous ressemblent beaucoup. Alors, il y a les meilleurs, genre Spart, qui arrivent à un résultat vraiment très bien avec ces outils-là. Mais ils font quand même, on a l'impression qu'ils couronnent une pyramide de gens qui leur ressemblent. Je trouve ça très étrange. Normalement, le travail de l'un ne devrait pas ressembler au travail de l'autre. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je pensais faire un peu... qu'avec le succès d'Universal War, je ferais un peu école, et je le fais assez peu chez les illustrateurs. Et je pense que c'est parce qu'en fait, il n'y a pas les assistants pour faire école rapidement dans mon travail, quoi. Et ça complique la donne. Et voilà, ça me permet d'être un peu chez moi. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui soient chez eux en ce moment, qui ne se laissent pas aller au numérique. C'est un peu comme la musique en ce moment, vous voyez, qui sort un peu des mêmes banques de sons, des mêmes logiciels, et qui a quand même un peu la même couleur de plus en plus.
Il n'est pas en train de vous dire de rentrer chez vous. Hein.
Pourquoi ?
Tu as dit que tu aimerais qu'il y ait plus de gens qui soient chez eux. Je te passe une autre question.
En illustration, pardon. J'espère que c'était clair. Si je ne suis pas clair, vous m'envoyez des petits mots. Hein.
Je voulais reprendre la question de la personne précédente, mais en orientant vers GIMP, par exemple, qui lui est un logiciel open source qui coûte rien, c'est le principe.
Oui.
En plus, c'est le principe du partage et de la coopération. Et donc, qui lui permettrait de faire
exactement la même chose.
Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il n'y a pas besoin d'outils super complexes qui servent à grand-chose...
Quand on me demande à la fin qu'est-ce qu'il faut, je réponds il faut une tablette et GIMP. Parce que c'est gratuit. Voilà. Je ne sais pas qui l'a posé la question. Moi, je travaille sur Photoshop pour deux raisons. C'est que j'ai longtemps été en partenariat avec la maison Adobe. Ces sales américains écraseurs de l'univers. Parce que j'avais des copains là-bas, donc ils me fournissaient le logiciel et moi j'ai pris des habitudes dessus. Voilà. C'est du confort de ne pas bouger aujourd'hui. GIMP est très bien, il lui manque quelques petits trucs dans la productivité. Par exemple, quand je finis mes images, il m'arrive de faire tourner un petit script qui permet de générer toutes les versions pour les éditeurs, le web, les archives, les machins, tout ça. Ça, c'est ce genre de choses sur The GIMP, c'est ouh ! Voilà, donc c'est ce genre de choses qui font que j'ai gardé l'outil Photoshop. En toute franchise, on n'a pas besoin de Photoshop pour faire ce que je fais. On a besoin d'un logiciel très simple d'image capable de gérer ça. Je suis en train de passer une heure sur la tâche du porte-monnaie, vous voyez. Mais c'est le genre de petits trucs comme ça qui finissent par donner de la vérité à un vaisseau, quoi.
Et une autre question.
Bonsoir. Il me semble que cette année ou l'année précédente, il y a une application qui est sortie qui permet, en prolongement d'une, un peu comme une tablette graphique, de faire directement en fait de la peinture 3D, qui puisse après donner du coup un rendu pour des outils de visualisation 3D. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire, transposer vos vaisseaux ou toutes les images de votre univers ou de votre imaginaire sur une BD 3D? Et dans quelle mesure, de toute façon, vous aimeriez expérimenter un peu ce que permet le numérique en matière de BD?
Alors, la question, c'est quoi une BD 3D? Je vois assez bien ce que ça pourrait être en termes d'objets. Je ne sais pas où vous étiez. Oh mon Dieu, il y a un monstre. Moi, je suis auteur de bande dessinée, je raconte des histoires. Je ne sais pas si la 3D apporterait beaucoup plus à la bande dessinée qu'il n'apportait au cinéma. Je ne fais pas partie des convaincus de l'intérêt de la 3D au cinéma, quoi. À part des petites douleurs ophtalmiques en fin de séance. Deux, trois fois, je vous dis, oh, c'est joli quand même. La plupart du temps, j'ai fait, ouh, ça fait mal aux yeux. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas de raison de faire un objet. Surtout que j'imagine des planches en 3D, il faudrait. Ou alors on les visualise en informatique, ou alors on imprimerait des objets 3D. Alors je vous ai apporté mon dernier livre. Voilà, vous êtes où qui est la question? C'était. Ah, tout au fond, voilà, bien loin, oui. La salle est trop grande. Donc voilà, c'est des choses que je laisse à d'autres pour l'instant le plaisir d'expérimenter.
D'autres questions pour t'empêcher de travailler?
Gilles est en train de vouloir prouver qu'on ne peut pas y arriver en une heure à faire un truc correct. Ah, il y a un truc qui est sympa dans les vaisseaux, quand on veut animer un peu, c'est de se dire qu'on va faire des lumières.
Une autre question.
Oui, une question peut-être un peu candide, mais est-ce que ça peut être totalement impensable que vous fassiez un album sans justement recours à l'ordinateur, à Photoshop, juste avec un crayon de bois, de l'aquarelle? Est-ce que c'est totalement impensable maintenant?
Ça n'est pas impensable dans l'absolu, parce que je l'ai fait. J'ai commencé à une époque où les ordinateurs étaient pas assez puissants pour taper ce travail-là. Je fais partie des premières personnes qui ont basculé. Mais aujourd'hui, alors pourquoi je fais mes albums en numérique fondamentalement, aujourd'hui que je n'ai pas du tout envie de bouger? Je ne suis pas un dessinateur, je ne suis pas un artiste. Je ne fais pas des tableaux. Je ne dessine pas pour le marché de l'art. Je ne dessine pas pour vendre des originaux. Je dessine pour vendre des livres. Je dessine pour raconter des histoires. Quand vous achetez Universal War One, un album, vous achetez pour moi ce qui est l'original. C'est un art populaire, la bande dessinée, à mes yeux en tout cas. La grande différence avec les arts savants ou les arts majeurs, comme aimait à dire Gainsbourg, c'est qu'il y a des arts qui sont faits pour les gens qui peuvent se les payer et des arts qui sont faits pour tout le monde. Un tableau, c'est très joli, mais pour se le payer, il faut en sortir un peu d'argent. Et ça peut aller très très loin. Alors Monchu, il est entre les deux, parce qu'il vend ses originaux, mais il a surtout travaillé pour les illustrations de livres, etc., donc pour la version la plus populaire de la chose. Mais moi, réellement, mon but, c'est de faire des livres de bande dessinée. J'ai aucune raison de faire des originaux, à part de les vendre en galerie et de faire plein d'argent, mais c'est pas mon but dans la vie. Enfin, si, faire de l'argent, c'est mon but, mais pas de les vendre en galerie. Mais donc, le but, c'est vraiment de faire ces livres-là. Et alors, en numérique, on a un contrôle sur le résultat final qui est parfait. C'est-à-dire que quand je faisais de la couleur manuelle, il fallait en faire un cliché photographique. Alors maintenant, on scannerait directement. Et espérer que les couleurs qu'on a mises sur le papier soient reproductibles avec les encres d'imprimerie. Ce qui est assez rarement vrai, à moins de limiter largement sa palette. Puis espérer qu'il n'y a pas eu un flou au moment du transfert, etc. Puis recaler ça avec son trait, si on fait du trait. Et on avait des albums qui étaient nettement moins fidèles à son travail d'origine que maintenant. Maintenant, j'ai un écran calibré chez moi. J'ai même plusieurs calibres. Je peux basculer selon les imprimeurs chez qui le livre va être fait. Et je vois exactement le rendu de mon travail. Donc je contrôle à 100% l'objet. Et ce que je vous destine à mes lecteurs, je l'ai sur mon écran. Et ça, j'adore ça. Et je n'ai pas envie de perdre ça pour retourner à un artisanat qui finalement n'a pas raison d'être. Pour moi, les originaux, et j'en ai encore pas mal, c'est des déchets de production. Ce n'est pas des buts en soi. Et je n'ai pas le manque de la vibration du papier ou de la toile, ce genre de choses. J'ai toujours dessiné pour raconter des histoires, pas pour épater mes petits amis avec mes tableaux.
Une autre question.
Même enfant, quoi. C'est amusant, quoi.
Est-ce que vous croyez que ça soit possible de faire la même chose que vous faites, mais en peinture ?
Il suffit d'aller voir à côté. C'est totalement possible. C'est beaucoup plus long. C'est un travail plus difficile. Et jamais notre ami Manchu aurait idée d'aller patouiller comme ça pour voir s'il va s'en sortir. Dire qu'il va... Bon, c'est pas un ringard, hein, il a un ordinateur, donc il va patouiller sur son ordinateur un petit peu en noir et blanc, mettre en place son image, refaire ça sur papier avant, il fait ça sur du papier rough, etc. Mais il fait sa mise en place et il fait une exécution exacte et sans repentir et au plus net possible en peinture. Donc il y a une étape où on imagine l'image et une étape où on la réalise. Moi, je fais les deux en même temps. C'est ça que j'adore en informatique. C'est réellement ça que j'adore parce que on a cette espèce de truc rigolo qui est de... Le nombre de fois où j'ai, sur le dessin final, des restes de cette espèce de bricolage... Quand j'ai commencé à bosser comme ça en informatique, j'ai mis... Il faudrait que je demande à Valérie dans son souvenir, mais au moins 4-5 ans à arrêter de me laver les mains après chaque dessin. J'ai l'impression d'en avoir partout. Parce que quand je faisais ça sur papier, c'était... L'artiste, oui. Il fallait mettre un chapeau pour ne pas en avoir plein les cheveux. Quoi. C'était... Et j'avais ces réflexes-là. Quoi. Je me levais du truc et j'allais, avant d'aller manger, surtout se laver les mains, parce qu'autrement, on va en mettre plein sur les murs. Quoi. Alors que c'était juste une réflexe hygiénique, parce qu'un clavier, c'est dégueulasse. Quoi. Donc c'est assez étonnant. C'est dans ma tête, c'est vraiment de la peinture. Quoi. À aucun moment, j'ai l'impression de travailler sur un ordinateur. Si, j'ai l'impression de travailler sur un ordinateur quand je vois ce que j'ai réussi à abattre dans la journée comme travail. Ça, parfois... Alors, vous voyez, on travaille par affinement, par tâtonnage. Alors là, évidemment, je me dis que je ne vais quand même pas faire un truc tout droit parce que ça va vraiment être ennuyeux. Alors, ce qui est rigolo, là, c'est qu'il reste des petites scories de ma mise en place du dessin, mais ça finit par faire une petite vie autour des choses.
Une autre question.
Vous parliez des petits artefacts qui restaient sur le produit final. Vous avez un petit exemple sur, par exemple, la couverture qu'on voit ici?
Ah oui, je pourrais vous zoomer dedans si vous voulez voir. Je crois qu'il y a plein de caca encore dessus. Je suis sur les livres, j'ai remonté un petit peu. Oula, on fait tout là. Je dois l'avoir ce bouquin-là, dans Universal Well. Voilà, c'est le tome 1. Voilà. Ah, je pourrais vous montrer aussi un truc amusant pendant que je suis là. Donc ça, c'est le dessin. Ah, et alors il y a des petits... Alors là, comme je... Alors oui, pardon. Il y a beaucoup d'images. Sur cette image-là, a priori, elle fait assez terminée comme ça. Alors comme je travaillais de la lumière de soleil, j'avoue que j'ai pris un pinceau avec des bords flous, histoire de faire un peu nimbé. Et sur le soleil, je suis sûr qu'il reste plein de zones de caca. Alors là, le problème, c'est que le document n'est pas assez défini. Mais je vais trouver un petit endroit où il reste... Oh oui, là, on commence à les voir, les sales coups de souris que j'ai passés sur le, oh là, sur le soleil. Vous voyez, ce genre d'endroit-là, vu de près, c'est quand même pas ragoûtant. Hein. On voit un petit peu... Alors, le bord du pinceau est un petit peu floutard, donc on a ce genre de choses. Mais ça, c'est, en termes de matière de peinture, c'est un peu caca. Hein. J'aurais vu avant de rendre l'image, je pense que je l'aurais corrigé. Mais ceci dit, c'est, je crois que personne ne va aller regarder ce bout de dessin-là, à cet endroit-là, puisqu'on est dans la lumière, ça... Et vous voyez ce que vous commencez à voir les rendus là que j'ai, ils sont pas loin. Hein. On est dans ce genre de choses. Alors c'est plus de temps, c'est plus de finition, mais c'est pas. C'est... Alors pour ceux qui s'intéressent, en BD, ça c'est mes brouillons de pages. Rien à voir. Parce que je les ai vus, donc je vous les montre. Bon.
Une autre question.
On va avancer un petit peu.
Votre vaisseau, celui que vous dessinez actuellement, est déconnecté de toute histoire. Mais quand vous imaginez une histoire Universal War, à un moment donné, quand vous devez créer les vaisseaux, et non pas seulement pour illustrer, on voit que sur la couverture, les vaisseaux n'ont peut-être pas de lien direct avec l'histoire, le vaisseau a une fonctionnalité, il a un rôle à jouer. Donc il a à la fois un décor et un personnage. Comment cela... Bah, joue sur votre dessin.
Si j'avais décidé de partir... Oh, c'est bien de travers. Ah, oh, j'adore l'informatique. Vous voyez, je travaille dans mon coin, puis je pars de traviole. Et là, The Miracle. Ça, faut être honnête, là, il va pleurer. Non, mais voilà, là, vous la voyez. Évidemment qu'il n'aurait pas idée de faire ça, de commencer sa peinture comme ça et puis de plonger notre ami Manchu, parce qu'il va avoir une croûte de 8 mètres d'épaisseur quoi, avec les corrections. Quoi. C'est inévitable. Donc c'est vraiment des techniques très différentes, de fait. Moi, je dis toujours que j'ai gagné une liberté artistique incroyable avec cette machine. C'est-à-dire, je joue comme un gamin avec mes formes, mes lumières, mes... Oui, je vois même que j'ai fait un peu n'importe quoi en perspective, donc je vais un peu rebouger cette boule-là. Quoi. Voilà, hop. Ni vu ni connu. Oh, il y a un trou. C'est pas mal d'avoir des trous parce que ça donne des idées. Je me dis qu'il y aurait... Vous voyez, les deux boules du porte-monnaie commencent à nous faire un petit truc amusant, hein. Bon, il commence à être loin, le porte-monnaie. Quoique, il est articulé, là, il peut s'ouvrir encore. Hein. Il reste un vague. Ce qui est bien, c'est que là, il n'y a plus personne qui peut deviner que c'est un porte-monnaie. Je suis nettement meilleur que les mecs de Star Wars, vous voyez. Ils retrouveront jamais, quoi. Bon, peut-être qu'en même temps, là, sur cet exemple-là, j'irai peut-être pas faire le fanfaron. Mais...
Une autre question ?
Est-ce que vous cherchez toujours à faire des faisceaux crédibles, réalistes ou complètement fantaisistes dans Universal War One par
Alors, exemple dans le tome, dans Universal War One, j'ai pensé quand même à donner un sentiment crédible. Il s'avère que dans Universal War Two, il y a des extraterrestres. Et je me suis dit, il faut que je fasse du bazar dans mes vaisseaux. Il ne faut pas qu'ils sortent de la main du même ingénieur, de la même époque, etc. Et j'ai fait des vaisseaux que je considérais comme non crédibles. Pour moi, ils étaient aliens. Ils étaient étrangers complètement à la pensée humaine. Faire un poulpe géant dans l'espace pour traverser la galaxie, c'est quand même très con, quoi. Surtout les tentacules, quoi. D'un autre côté, je suis pas sûr qu'on ait pas fait plus d'une fois des trucs très bizarres sur nos avions aussi, dans le genre. Hein. Donc voilà. Donc y a, sur l'extraterrestre, je suspends une certaine crédibilité parce que je me dis que je comprends pas tout dedans. Donc le porte-monnaie pourrait éventuellement être extraterrestre. C'est intéressant. C'est un vaisseau qui honore leur dieu de l'argent, vous voyez. Comme les Ferengis dans Star Trek, quoi. C'est important, quoi, le porte-monnaie pour eux. Et bon, ils ont les mêmes porte-monnaie que nous, c'est très étonnant. Mais c'est parce que l'Atlantide est allée là-bas, enfin, vous voyez, c'est très... Bon, c'est pas comme ça que j'écris des histoires, là, je vous rassure. quelque part, tout ça, c'est quand même... Je ne sais pas si vous avez... Moi, je sais pas si vous avez été comme ça quand j'étais enfant. Mais moi, quand j'étais enfant, c'est... Et si on dirait que... en fait, je serais machin, et puis toi, ma sœur, tu serais bidule. Et... Je continue à faire souvent ça. Faire de la fiction, créer, c'est « et si » et « on dirait que » et on évite juste de jouer au docteur, ça va un peu trop loin, mais pour le reste, c'est quand même les jeux d'enfants, comme ça. Il y a certains auteurs. Mais voilà, il y a un côté comme ça très ludique, il faut absolument aller explorer. Il y a immédiatement un chemin qui a l'air interdit, il faut immédiatement foncer dessus, quoi. On fait pas un vaisseau avec un porte-monnaie, quoi. C'est idiot, quoi. Ça se fait pas. Mais jamais, si j'avais pas eu ce porte-monnaie en main, j'aurais pensé à faire un vaisseau avec une anse articulée, quoi. Et de boule à l'avant.
Une question.
Oui, c'était pas vraiment une question, mais avec les vous disiez, on a fait des conneries quand on a conçu nos vaisseaux. Mais là, ce porte-monnaie avec les tiges et les sphères au bout, ça fait un peu comme un diapason. Est-ce que c'est pas un vaisseau renifleur, comme les fameux avions renifleurs pour trouver du pétrole ? Est-ce que c'est pas, est-ce qu'on n'est pas sur un navire de prospection d'un matériau ou d'une énergie ?
Pour être honnête, j'aimerais bien qu'on ne dénonce pas les secrets d'État de l'Empire Krull, comme ça en public. Il y a des gens qui sont courants ici. Mais non, oui, bien sûr, ouais, je pense que. Enfin, renifleur, je ne sais pas, débouche-né de Dieu. Parce que les entités galactiques sont très grandes. Vous avez tous vu Galactus, hein, dans les Marvel, c'est très grand. Et il est allongé, il dort. Pop. Non, bon. C'était une autre hypothèse, mais... En fait, aucune de celles-là n'est crédible. Ah, j'ai oublié les oreilles de chat. Non, ça va pas du tout si je... On va essayer de faire un petit peu de réglage général d'image là quand même, parce que ça devient un peu n'importe quoi.
Une dernière question.
Ah bon, on approche de la fin ?
Ouais. Bonsoir.
J'aurais pas fini mon dessin.
Bah, c'était justement par rapport à ça en fait. J'étais curieux de voir justement comment vous abordez votre rendu final, comment vous arrivez à diluer vos couleurs en fait, sans forcément prendre des brosses un peu élaborées. Parce que dans vos rendus définitifs, on voit pas du tout la superposition des couches comme vous faites là sur la planète par exemple.
Bah parce que je fais ça à différentes échelles comme ça. C'est tout en gestuel.
Est-ce que vous appuyez aussi sur la touche pour la pression pour que,
alors non, j'appuie sur la touche pour récupérer la couleur. Alors mais par exemple, ouais. Je veux étendre ça vers là, je récupère cette couleur, il y a le mélange qui me plaît, je le ramène vers là, il y a du noir, je le ramène. Et cette petite gestuelle là, vous voyez, en accéléré, permet de faire des dégradés vaporeux par exemple. Il y a beaucoup de gestuels dans Universal War à différentes échelles. S'il y a de la matière dans Universal War, c'est pas parce que j'ai un bouton matière magique ou un filtre auto-Van Gogh. Il y avait un filtre auto-Van Gogh et une porte en Photoshop, je vous jure. Hein. Voilà, je l'avais vu passer, on l'avait essayé, c'était pas si mal. Ça faisait un peu plus du Sfar que du Van Gogh, mais... C'est l'explication du travail de Sfar. C'était, ça marchait pas si mal, parce que dès que ça voyait une lumière, ça faisait des rondes-tours, vous voyez, c'était un peu systématique. La seule matière, c'est celle qui résulte de ces accidents de la main, Ah, je vais vous montrer mon petit outil magique, parce que j'ai pensé à le mettre, ce coup-là. Alors, j'ai mon petit outil avec qui fait du bruit. Voilà. Donc, comme ça, je peux faire des étoiles. Pratique, hein ? Bon, il y en a trop, là, mais on va remettre du noir, comme ça, il y en aura moins. Ah ben, je remets dans le soleil, mais c'est pas grave. On va repeindre. Alors, vous voyez, ce qui est marrant dans cet outil-là, c'est que il y a un petit côté. L'impression qu'on a une espèce de mauvais. On travaille à la brosse à dents, par exemple. Dans le temps, quand on voulait faire des effets comme ça d'éclat, on faisait des brosses à dents. Mathieu Lefray est un grand utilisateur de la brosse à dents. Il y a dans son atelier, il y avait 7-8 brosses à dents différenciées à une époque pour faire tous les mouchetis, les éclats, etc. C'est assez impressionnant à voir. Vous voyez le travail de Mathieu Lefray, non ? Oui, non, c'est pas grave. Alors ça, je m'en sers pas beaucoup dans Universal. Je m'en sers pour faire des étoiles, voilà. Mais je m'en suis servi dans un bouquin qui s'appelle Trois Christs, qui a l'air d'être fait un peu au pastel gras, comme ça, qui est plein de matière. Et c'est parce qu'en fait, j'ai intégralement fait avec cet outil-là. Alors, faire un trait avec cet outil-là, c'est impossible de faire un trait. Donc, en fait, on passe son temps à essayer de rattraper le machin. Et donc, j'ai un bouquin qui a l'air d'avoir été postillonné par un impressionniste, vous voyez. C'est...
Bon, Denis, tu viens de gagner 30 minutes de plus.
Ah, bah, c'est vrai ? T'as réussi à déplacer tes activités où tu leur as dit qu'ils étaient nuls ?
Non, je me suis fait cloner.
Ah, c'est génial, les utopiales, pour ça, il y a des machines pour tout. Vous avez trouvé les passages temporels, j'espère, pendant vos visites ? Il y en a un qui ramène aux Utopias 1953. Qui n'existe pas, pour information. Et qui... Bon, j'apprends mon outil normal, mais vous voyez, c'est amusant, hein, ça change. Hein. Et on le, ah oui, là, vous le voyez bien, mon outil. C'est des... En fait, c'est simple. Hein, j'ai pris une brosse à dents de Mathieu Lofray, je fais splouch avec de l'encre noire, j'ai scanné et j'ai récupéré. C'est un truc que j'ai fait il y a 20 ans, donc c'est pas... Et depuis 20 ans, je postillonne de la même manière. On va se remettre un joli outil de professionnel tout rond.
Si vous me permettez une petite question, quand vous vous lancez sur une image, est-ce que vous avez une idée du rendu final que vous voulez obtenir ou est-ce que vous la construisez pas à pas ?
Alors, pour être honnête, avec un porte-monnaie, j'étais mal parti pour avoir une idée finale. Mais il m'arrive très souvent d'avoir une intuition en tête, je dirais, plus qu'une image. C'est-à-dire, c'est une espèce d'intention et je crois que l'image est faisable. Et j'ai une sorte de chose dans la tête. Et en majorité, c'est faisable. Mais de temps en temps, je m'aperçois que c'est une image qui n'est pas faisable pour moi, ça c'est sûr. Et je suppute souvent qu'elle n'est pas faisable du tout. Alors avec le temps, on apprend à pas avoir d'illusions, mais l'idée, par exemple, de représenter quelqu'un qui aurait une émotion dans une foule, ça, à 12 ans, on croit que c'est faisable. L'idée de représenter une cathédrale qui danse. Ça, quand on se drogue, on pense que c'est faisable. Mais oui, j'ai souvent un truc en tête. Valérie, mon épouse qui est là, sait que c'est les pires moments quand j'ai eu l'image en tête et que j'arrive pas à la faire. C'est des pires moments parce que pendant tout un moment, je me dis que je suis vraiment une merde. Parce qu'on effleure la beauté, la réalité d'une chose, etc. et on est incapable de la transcrire dans la réalité. Ça, c'est l'impression que le monde merveilleux nous devient inaccessible et inattaignable. Heureusement, les trois quarts du temps, ça marche. Et là, je fais le fanfaron, t'as vu ce que j'ai fait ? C'est moi qui l'ai fait. Mais... Parce qu'il y a un plaisir enfantin à réussir une image spatiale. Moi, j'ai accroché ces posters-là sur mes murs quand j'étais gosse. Hein. Réussir à faire ce genre d'image aujourd'hui, c'est assez magique. Quoi. J'ai toujours l'impression de faire partie de la tribu des magiciens. Un de mes plus grands plaisirs serait qu'un jour la NASA me commande une de ces images spatiales que je faisais quand j'étais gosse. Quoi. Je vais y passer un mois. Quoi. Ça va être la plus belle image de l'univers. Hein. Parce que voilà, ça serait répondre à cette espèce de passion qu'il y avait. Je ne sais pas si c'est un beau vaisseau, mais. Non, en fait, c'est pas terrible. Mais c'est intéressant parce que vous avez vu le genre de réflexion qu'on peut mener. Je pense qu'il n'est pas retenu pour Universal War, je tiens à le signaler. Vous ne verrez pas ce débouche né de Dieu dans le. On va essayer de se faire un petit. C'est amusant quand même, hein, la peinture comme ça. Hein. Un côté barbouillage. Si vous voulez, à la fin, il y aura quelques personnes qui pourront venir jouer avec la palette même. Hein. Vous verrez que ça ne marche pas. Non, parce que là, je fais des trucs, mais en fait, la première fois qu'on y touche, c'est juste un sentiment de frustration absolue parce que on a le cerveau qui refuse de suivre en même temps le curseur et la main. Quoi. Donc, on se sent profondément idiot. Moi, ça a duré 10 ans. Hein, donc, maintenant, je me sens idiot pour d'autres raisons. Mais... Ah, j'ai dit que c'est fini. C'était bien ? Apparemment, ils ont applaudi. Quoique les gens sont polis ici. Alors pareil, je travaille véritablement comme ça dans, chez moi, parce qu'il y a des fois où, comme un idiot, je passe sur un truc que j'ai fait, alors je le reprends. Alors parfois j'annule, des fois je nettoie. C'est vrai que je dois dire qu'il m'arrive de peindre sur deux calques, voire trois calques, parce que quand je me suis fait suer à faire un ciel avec des nuages, je n'ai pas obligatoirement envie de faire mon bonhomme dessus en évitant les nuages, quoi. Mais c'est vraiment ce genre de mise en plan comme ça qui fait que j'utilise des calques. C'est un confort de travail. Ce qu'on faisait avant en peinture, où on masquait une partie de la peinture pour faire l'autre partie, pour y aller comme un gros porc avec son aérographe, par exemple. Mais il n'y a pas de combine magique. Il m'arrive de rééquilibrer un peu la chromie d'une image, de me dire, ah, quand même, là, elle est un peu tristouille, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je monte un peu les rouges sur l'ensemble? Voilà, ça, évidemment, on va pas se priver de ces outils-là. C'est vrai que c'est mieux tout de suite, hein. Mais ça, c'est des outils de photograveur, j'allais dire. C'est de la mise au point, ça fait partie de la tambouille de départ, on bricole avec certains trucs comme ça. Il m'arrive même éventuellement d'utiliser l'outil dégradé de temps en temps, de me dire quand même, là, t'es un peu flemmard ce matin, tu vas utiliser un dégradé. Je suis en train de chercher son outil, je vais le trouver, il doit être bien caché. Bon. Ah oui, c'est voilà, c'est qu'il est caché derrière ça. Et de me dire, voilà, je vais faire un petit dégradé. Ah oui, un joli petit dégradé. C'était bien, hein. Voilà, de prendre. Je vais prendre un jaune, je vais le mettre dans un mode de colorimétrie un peu violent. Voilà. Ou pas. Évidemment que je ne vais pas me gêner de faire ça. Vous voyez, là, la mise en place, elle commence à prendre un peu de sens. Parce qu'avec ce genre de petit réétalonnage, un petit travail, là, c'est pas beau, par exemple, ça crée des salles jaunes. Mais ça me rappelle qu'en théorie des couleurs, il faut que j'ai ma contre-couleur qui monte. Hop. Très très vite, on se retrouve avec à pouvoir. Pardon. J'allais dire sécurité. Un fan en furie. Ils veulent juste me voler mon Mac. Au prix que ça coûte ces trucs-là, je comprends. Vous voulez voir quelques images pour finir? Parce que bon, là, pour passer de ça à une couverture du W1, vaut mieux reprendre à zéro, là, pour être honnête. Je vais vous montrer quelques résultats finaux, mais vous avez vu la manière dont je bosse, c'est pas, y a plus de secret. Alors, je dis souvent qu'une démonstration, si je loupe pas le dessin, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à la maison, quand je pars comme ça, en faisant n'importe quoi, en discutant au téléphone et compagnie, je loupe le dessin. Donc si j'avais réussi un dessin impeccable là, vous auriez su que j'étais en train de vous mentir et de vous faire un spectacle. Alors que j'essayais de vous montrer du geste et de la manière dont on travaille, quoi. C'est... Alors, qu'est-ce qu'il y a? On va aller sur UW2, il y a des images un peu différentes. C'est celle que j'ai montrée ce matin. Alors, la BD au trait, c'est un rendu très différent. Mais quoique, pas tant que ça. Quand je fais des travaux sur des ciels comme ça, ou sur des... Vous voyez, on retrouve le genre de... Je ne sais pas si on voit beaucoup, ceci dit, là, ces échelles-là. Vous voyez, on retrouve mes coups de pinceau un peu pourris, là. Hein. Simplement, c'est une rythmique qui fait qu'à l'arrivée, ça a l'air d'être un nuage. C'est... Donc je fais des nuages parce que je sais dessiner des nuages, pas parce que j'ai un outil qui fait super bien les bords de nuages, quoi. Parce que ça existe, hein. Là, quand on va sur Internet, on va sur YouTube, on tape « tutoriel nuages » et on a des gens qui nous expliquent quelle forme d'outil avoir pour faire des générateurs de nuages. Et ça marche bien, hein, ça fait des super nuages. Le problème, c'est qu'il y a 3 tutoriels qui sont partagés sur toute la planète et il y a 3 formes de nuages maintenant dans 75% des illustrations des gens de moins de 30 ans. Ça, il est là le problème. J'ai mis 30 ans à comprendre comment c'était à peu près foutu un nuage, et encore, c'est loin d'être parfait. Mais celui-là, il est bien, pardon, il est sympa. Mais c'est des choses, voilà, faire un ciel de nuage avec une contre-lumière de soleil, etc., c'est un drôle de truc. Là, j'avoue que j'ai donné un coup de j'ai pris mon outil rond et j'ai fait le soleil rond d'un coup, hein. Il y a un moment où, quand même, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme genre d'image? Ah, là, on parle de vaisseaux. Quand je disais que j'avais fait des vaisseaux extraterrestres un peu idiots, faire une boule avec des pointes et des trucs derrière, je sais pas, ça ressemble pas trop à ma manière de penser un vaisseau jusqu'à maintenant. Faire un donut géant avec un trou. Mais bon, ça, on sait depuis les Simpsons que c'est possible. Mais l'œil suppositoire avec des pics aussi. Là, il y a une sorte de truc, je pense que c'est des insectes qui volent dedans, vu la tronche que ça a. On les revoit de côté, là. Ma flotte extraterrestre. Ah oui, il y a celui-là aussi. Dans le genre, j'aime bien les tubes. Je suis une civilisation du tube, donc je vais faire des tubes. Jamais personne ne fera un vaisseau avec des tonnes de tubes comme ça. Je me suis dit, c'est en orgue, en gros. Quoi. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est les gens, ils sont branchés de tubes. Ils ont peut-être des formes de tubes, en fait. Hein. Ou alors, enfin voilà. Mais voilà, c'est des choses que j'aurais pas fait dans sorte d'abus comme ça de choses dans un vaisseau terrestre et qui permettent pour moi de traduire une certaine étrangeté. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme image encore? Ouais, ce genre de choses, par exemple, c'est rigolo, mais c'est vraiment dessiné à la main, quoi. Les petits effets. Vous voyez, de près, on commence à voir que c'est pas du tout des mathématiques, hein. Ah, j'ai été un peu trop loin. Vous voyez, on reconnaît mes superbes traits mal faits. Et j'ai passé des petites couches. Alors, parfois, je travaille très léger, à 10%, 20%, pour monter des dégradés très souples. Vous voyez les explosions, là, vous reconnaissez mes petits boubouis, là, c'est tout ça. Alors, avec le trait, évidemment, l'illustration est très tenue, donc ça donne un côté super net à l'arrivée, presque un peu trop. Mais c'est... Il n'y a rien de... Je suis en train de chercher des images un peu... Ouais, même les éclairs, ça se dessine à la main. Et les gens, ils ont des filtres éclairs maintenant. Quoi. Enfin, je sais pas, un éclair, ça a une tête, c'est un type de lumière. Il y a une lumière autour de la lumière. On dessine la première lumière. Puis on refait un trait plus blanc dedans. Et puis on en fait un tout blanc au centre. Et puis ça fait un éclair. Quoi. Il n'y a pas de... C'est en ça que c'est vraiment du dessin, quoi. Il y a des trous, il y a des explosions et tout, c'est un riche spectacle. Il y a des lecteurs d'Universal War. Vous voulez voir la première page du tome 3 ? Tintin ! Vous voulez voir le board ? Il y a des gens qui filment là ? Ah oui, il était filmé par tout le monde. Ah, c'est problématique. Alors ça sort, si tout va bien, j'espère bien. Voilà, très rapidement, tout le board. Pour informer... Ah. Non mais... C'est, voilà, non mais voilà, je ne vais pas vous montrer la fin de l'histoire quand même. Ça sort, alors vu que j'ai loupé les fêtes et que les grosses sorties, ça a des calendriers de publication assez particuliers, a priori ce ne sera pas avant mars prochain. Voilà. Je suis très en retard parce que je m'occupe des états généraux de la bande dessinée qui est... Allez, je vous montre la... Voilà la planche 1. Vous devez bien vous demander ce que c'est, quoi. On commence à s'éloigner de la Terre, là, hein, ça se confirme. Hein. Je peux grossir là-dedans aussi, ouais, ça va marcher. Ouais. Ça, c'est du design de vaisseau, vous voyez. Je ne sais pas de quoi je suis parti, là. C'est un mauvais trip, sans doute. Non, en fait, voilà. En fait, vous allez vite comprendre en voyant les cases d'après.
J'ai une petite question.
C'est un observatoire, voilà. Un grand observatoire. Oui.
Comment vous avez fait pour le reflet Vous avez utilisé quoi comme outil?
Pour quel reflet
Pour le reflet des étoiles dans la
coupole. Le miroir. Alors là, je vais être honnête, j'ai pris le joli ciel que je m'étais fait chier à dessiner à côté, je l'ai replacé là-dedans, je l'ai tiré en triangle, vous voyez, on voit, il y a des points de fuite comme ça. J'ai déformé la sélection en triangle, puis après, j'ai le reste, je l'ai peint pour avoir la courbe. Voilà. Il n'y a pas d'outil.
Et par rapport à l'interaction entre les traits et la peinture, enfin la peinture entre guillemets, mais pour vos tracés et la
Ah, le tracé des ellipses
Non. Les détails, les contours des objets, comment vous faites pour... que la peinture, elle a toujours tendance à un peu déborder sur les...
Bah, en fait, il suffit de réduire la taille de son outil, c'est un peu bébête, mais...
Et donc, vous utilisez toujours le même outil, mais plus fin, quoi.
Voilà, plus fin. Alors là, en l'occurrence, j'ai fait une sélection, hein. J'avais fait mon joli fond. J'ai dû faire tout le fond avant, en me disant que j'avais besoin de cette image-là. J'ai isolé en sélection mon vaisseau. Là, j'ai peint. Et puis là, j'ai collé dedans mon fond d'étoile que j'ai... truc. Et donc c'est pour ça que le bord est hyper net là, mais là on voit que c'est très net, et ça a été fait en pure peinture, hein. Voilà. Ah oui, j'affine l'outil. Alors en fait, la tambouille que je fais avant, elle est plus radicale, elle va plus au but parce que je sais ce que je fais, donc elle est beaucoup plus en place, et donc je passe beaucoup plus vite à la finalisation qui est très longue, entre guillemets. Ça, c'est des planches en termes de couleur. Ça m'a pris je me souviens plus précisément, mais je pense entre 4 et 6 heures, quoi. C'est pas très très long. C'est plus spectaculaire que long, quoi. Et c'est cette case-là qui m'a le plus embêté, comme quoi, hein. Parce que j'avais fait mes espèces d'éléphants blancs là. Et je cherchais des teintes de peau, je voulais que ça fasse penser à des trucs, etc. Et j'ai trouvé du mal à avoir des équilibres. Je voulais qu'il y ait des espèces de couleurs bizarres, un peu trop lumineuses, mais pas trop. Enfin, c'est des petits trucs qu'on a en tête, fameuses images qu'on a en tête et qu'en fait on n'arrive pas à faire. Donc j'ai tourné autour du pot un peu trop longtemps là. Bon, je ne sais pas si je vous montre la couverture. Voilà, c'est la couverture du prochain Universal War. Un truc bizarre, hein. Voilà, c'est fini. Plus de couverture. C'est la suite d'Universal War. Là, ce tome-là, il est vraiment... on entre dans le cosmique. C'est-à-dire que c'est bien Universal War 1, c'est quand même une guerre solaire, en fait. Elle est universelle que parce qu'à la fin, il y a cette espèce de déclaration de guerre universelle que fait Mario à l'univers en ouvrant un wormhole géant dans le soleil, mais de fait, Universal War 2, là, on rentre dans la problématique de la galaxie, de ceux qui y habitent, et qui ne sont pas obligatoirement contents que les humains fassent les cons dans l'espace comme ils l'ont fait avec leur propre planète avant, quoi. Voilà. Parce qu'il va falloir qu'on apprenne, hein, parce que les conneries qu'on fait sur Terre, quand on va arriver au niveau stellaire, on ne les pardonnera pas, hein. On va nous renvoyer nettoyer des cailloux, hein. Avec des brosses à dents. Non, mais c'est un peu le sujet Universal War 2. Et là, vous voyez que l'échelle est en train de grandir sur ce tome 3. Voilà. Et j'espère qu'il vous plaira. Et les autres, faut lire Universal War 1. Faut remonter en 8 tomes en arrière. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent venir toucher juste pour voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas non plus. Je vais me mettre au bord, là, il y en a... si ça vous a tenté, pour ceux qui ne dessinent pas, n'hésitez pas, on trouve des tablettes à moins de 100 euros de nos jours. On peut commencer à gribouiller sur les iPads parce qu'il y a des stylets pour ces trucs-là et compagnie. C'est ludique, quoi, c'est comme du papier. L'informatique, il n'y a pas de. Il y a des gens qui vont vous faire du travail intégralement en informatique. Moi, je vous montre juste que c'est un support et que c'est quelque chose qui offre juste la possibilité de jouer le plus longtemps possible jusqu'au moment où on va figer son rendu. Voilà. Ah, j'ai compris l'astuce de Gilles. C'était ça, le clonage. Ou alors les cheveux avaient repoussé, mais...
Vous avez été à l'école traditionnelle avant de passer au numérique. Il y a une grande expérience. Est-ce que vous pensez qu'on peut pratiquer le dessin ou la peinture directement en apprenant au numérique?
Ça, c'est une sacrée question.
Alors qu'on on ne touche pas la matière, on ne touche pas...
C'est une sacrée question. Outils. C'est vrai que moi, je suis passé par la formation traditionnelle. Je dis même qu'en, par exemple, en typographie, j'ai appris le plomb à l'imprimerie, à assembler des plombs. Vous voyez, avant, la dernière génération qui a passé avant le numérique. J'étais à côté, j'étais un petit garçon qui avait un ordinateur, on appelait ça un ordinateur à l'époque, qui touchait un ordinateur dès 1980, j'avais 10 ans, c'était le ZX80, 16K de RAM, hein, 16K de RAM, hein, je vous laisse digérer l'information. On n'ouvre pas un document Word, on n'enregistre pas un document Word dedans maintenant, vide. Donc j'ai appris les techniques traditionnelles et... Mon goût pour l'informatique a fait que j'ai été la toute première génération qui s'est jetée dessus pour voir ce qu'elle pouvait faire avec. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut développer une sensibilité de trait, d'œil, de dessin, sans être passé par les techniques traditionnelles? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que la génération digitale native, là, elle est juste là. Elle commence seulement. Donc on le saura dans 10-15 ans. En musique, on a cru qu'on allait vraiment refroidir avec le numérique. Il y a eu un petit moment de froid quand même, hein, avec la techno et la musique indus. Là, ce qu'on voit en ce moment, des gens qui sont nés dans cette technologie-là, qui, pour qui le home studio, enfin qui n'imaginent même pas qu'il y a autre chose qu'un home studio et qu'un ordinateur pour faire de la musique, sont en train de nous sortir des choses qui sonnent comme des vieux morceaux crapouilleux des années 70. Donc, de fait, ça ne me paraît pas un problème. Je dessine comme ça parce que j'ai une culture visuelle, pas parce que j'ai maîtrisé un outil ou que je trouve que je ne maîtrise pas très bien ma main, je trouve que je ne maîtrise pas... vous voyez, Photoshop, je le maîtrise très bien en tant que graphiste à côté, je peux faire vraiment le malin avec. Hein. En ayant commencé sur Photoshop 1, je suis tranquille sur ce logiciel-là. Mais quand je dessine, je l'utilise de manière... d'un alphabet, quoi. Il n'y a pas plus idiot comme utilisation de Photoshop que celle que je fais là. Si j'ai un rendu qui a de la gueule ou pas de la gueule, qui plaît ou qui plaît pas, qui a un style, etc., c'est parce que j'ai développé un goût et une culture personnelle et une manière de faire personnelle. Donc tant que les gens feront ça, regarderont plein de choses, se poseront plein de questions, développeront leur propre manière de faire, on aura des rendus intéressants. S'ils se contentent de copier des techniques rendues très accessibles par l'informatique, alors on va s'ennuyer à mourir. Donc le message, il est bien là chez moi. C'est bien de dire, c'est pas parce que je suis la première génération d'informatique que je fais du travail informatique. C'est un... Voilà, c'est... Non, c'est tout se passe dans l'œil, le cerveau, l'espèce de chimie bizarre de la méthode qu'on développe dans tout ça. Si c'est accumuler des tutoriels sur Internet pour apprendre à dessiner, etc., là, c'est le meilleur moyen de créer un nouvel académisme. Ce sera l'académisme numérique qui remplacera l'académisme... du 19e, hein, qui avait des rendus extraordinairement intéressants et qu'on finit par ennuyer la terre entière tellement c'était bien fait, quoi. Voilà. Donc ça, c'est s'il y a des étudiants là en art, vraiment creusez votre sillon, quoi. C'est l'avenir vous appartient s'il est à vous, quoi. Autrement, il appartiendra à tous vos clones sur les logiciels, quoi. On devient irremplaçable dans ces métiers-là que quand on fait une chose que les autres ne font pas. Pas en faisant ce que font les autres, quoi. C'est... Et ça, je ne l'avais pas compris au début. Hein. Moi, je suis juste très têtu. J'ai fait mon truc dans mon coin. Mais on était les premiers, donc il n'y avait pas de méthode. L'idée de dessiner sur Photoshop, la première fois que j'en ai parlé à Adobe, le fabricant de Photoshop, ils ont fait « faut que tu viennes à Apple Expo faire une démo ». Et on a fait une démo, il y avait 80 places devant, et on a vu l'Apple Expo se vider vers la démo. Quoi. Les gens n'avaient jamais vu ça. Quoi. C'est sur Photoshop ? Pendant sur Photoshop, il y avait marqué crayon, pinceau, etc. C'était a priori un logiciel de dessin et de peinture. Quoi. C'était les métaphores qu'ils avaient choisies pour la retouche photographique, parce que c'était le but était de faire la retouche photo, étaient quand même des métaphores de dessin. Donc moi, je ne m'étais même pas posé la question. On devait pouvoir dessiner puisqu'il y avait un crayon. Donc voilà, cette génération-là, on ne pouvait être qu'un peu inventif. Là, aujourd'hui, voilà, la méfiance, c'est comme si tout le monde en musique ne travaillait qu'à partir de la même banque de samples, des mêmes rythmiques automatisées. Ça, ce serait très dangereux. Si tout le monde fait la musique sur GarageBand d'Apple pendant 10 ans, on va vraiment se faire chier, quoi. Donc là, il faut que chacun réinvente sa tambouille. Il faut savoir mélanger haute technologie et bricolage le plus basique possible. Quelque part, l'histoire de l'art, je le dis souvent dans mes conférences, mais ça a été de passer... au début, c'était on avait de la terre, des pierres, on ramassait des choses dans des coins, on essayait de faire un temple grec avec. Essayez de prendre des cailloux dans votre jardin et de faire un temple grec, vous allez voir le travail et de le peindre avec des ocres parfaits, etc. Donc on prenait cette matière naturelle chaotique et on essayait d'en faire de la perfection. Là aujourd'hui, le numérique nous sert à la perfection naturellement. Il n'y a rien de plus simple qu'un temple grec sur un ordinateur. C'est carré, les couleurs sont parfaites, etc. Nous, on doit réapprendre dans le numérique à retourner au chaos. Donc il y a eu une inversion de l'histoire de l'art monstrueuse, on ne s'en est pas rendu compte. Dans les années 90-2000, là, au moment où on est passé au numérique. Donc aujourd'hui, tous les gens qui travaillent sur le numérique doivent penser en termes de bricolage, de chaotique. C'est pour ça que vous voyez très peu annuler mes erreurs, parce que ça génère du chaos et du bazar. Et être obligé de refaire quatre fois le même geste, un, ça éduque ma main, et deux, ça génère une espèce de surface de travail qui devient complètement chaotique, qui n'a rien à voir avec la surface automatique de Photoshop. Voilà. Donc, générer du chaos dans votre travail. Et pourtant, j'ai un rendu à l'arrivée, vous voyez, je suis monsieur net. Hein, même. Parfois, je me dis que encore 10 ans, je fais du RG. Quoi. C'est une petite tense comme ça, un peu maniaque chez moi, comme ça. Ça n'empêche pas, à l'arrivée, de retourner à l'ordre. Mais je suis passé par l'étape chaotique. À aucun moment. Parce que si j'avais décidé de faire tout net depuis le départ jusqu'au bout, on serait dans le profond ennui, quoi, dans le trait mécanique, dans. J'avais des amis dans les années, à la fin des années 90 qui s'étaient dit « Ah, on va pouvoir faire de la BD de manière industrielle. On va dessiner toutes les têtes des personnages. On va faire des banques de bouche, des banques de nez, des banques de corps, etc. Et on va pouvoir aller très vite. » Donc, ils ont passé un an à développer leur banque de machins. Et quand ils ont commencé à faire les planches, ils s'emmerdaient tellement qu'ils ont arrêté. Parce que dessiner, c'est tout sauf ça, justement. C'est laisser monter le chaos et le remettre en ordre et arriver à quelque chose qui a du sens. Quoi. Voilà. Donc l'ordinateur n'empêche pas de faire du chaos, il faut juste lui laisser la place. Voilà. Ça y est, j'ai épuisé les questions. D'abord, je crois qu'officiellement, on a 4 minutes encore si on va jusqu'à 30. Donc... Oui. Alors, j'ai écrit un projet tout seul de 18 tomes. Si j'étais déjà un auteur normal qui tombe son album gentiment tous les ans, représentait 18 ans. Comme en plus, je me permets de faire des crises créatives et de tomber en panne et de ne faire les livres quand je considère qu'ils sont prêts, etc. C'est un projet de 25 ans, 30 ans. Donc, je me suis longtemps interdit de penser à autre chose. Parce que j'ai envie de le finir, ce projet-là. Quoi. Et tel que c'est parti, on est encore ensemble un certain temps. Mais c'est bien, moi, j'ai envie de vieillir avec mes lecteurs. J'adorerais qu'on se revoie dans 10 ans, 15 ans, et qu'on soit, je suis en train de terminer Universal War 3, et que ce soit qu'on discute de tout ça. « Oh, je suis un peu déçu, finalement, 30 ans pour faire !» Voilà. Donc, ça me plairait bien, parce que moi, j'ai eu des histoires d'amour longues avec des auteurs, déjà, et avec des travaux. Ça me déplaît pas, cette idée-là. Alors, j'ai longtemps, me suis interdit de penser à autre chose. Je pense à autre chose en ce moment, parce que je ressens un énorme vide dans la BD pour la jeunesse. Et j'aimerais bien réussir à faire, mais je ne sais pas si je vais trouver les solutions, à réussir à faire pour les jeunes garçons et les jeunes filles de 10 ans à 14 ans aujourd'hui, ce qui a été pour moi Goldorak, ou L'homme qui a eu 3 milliards quand j'avais cet âge-là. Et le faire en plus de manière le plus intelligente possible. C'est-à-dire que quand ils le relisent à 20 ans, ils découvrent une BD pour adultes. Voilà, donc je suis en train de réfléchir à ça. J'ai des idées. Comme je fais pas mal dans le jeu vidéo, je réfléchis même en termes d'univers partagé pour ça. Donc ça va prendre beaucoup de temps, donc c'est bien, je fais Universal War pendant ce temps-là. Mais il y a cette idée-là qui j'aime, parce que j'aimerais bien... Là, ce n'est pas pour mon orgueil personnel, même si ça pourrait rapporter plein de blé, si ça marche. Mais c'est surtout que c'est un dû que je dois à tous ces gens qui m'ont fait rêver quand j'étais gosse. Et aujourd'hui, je suis auteur de bande dessinée parce que je suis toujours un petit garçon en moi. Il y a le professionnel aguerri qui négocie les éditeurs, qui repart avec des morceaux de chair et qui les entend hurler au loin. Voilà, ça, évidemment, je suis devenu cet homme-là de 45 ans. Mais il y a toujours le petit garçon qui faisait piou-piou en dessinant les vaisseaux, quoi. Et je n'aurais pas le dire, mais il m'arrive encore de faire des bruitages quand je dessine des vaisseaux. Je suis là, ça ne fait ça, puis oh, tiens-toi, tu as 45 ans. Mais c'est vraiment ça, il y a ce plaisir basique. Et là, je me dis que voilà, Universal War, voilà, c'est quelque chose pour dépressifs de 25 à 55 ans. C'est assez dur. Bon bref, mais j'aimerais bien réussir à carrément aller chercher voilà dans les moteurs initiaux de tout ça qui sont encore chez moi et de parler à ces enfants entre guillemets qui sont en train de devenir des adultes quoi cet âge-là un peu magique et je pense qu'on a tous eu alors, la génération d'après c'était le chevalier du Zodiac ce genre de choses mais c'est des choses assez magiques. Moi mon seul regret c'est que adulte en revoyant Goldorak j'ai trouvé que c'était pas au niveau. Il y a des choses qui me plaisent toujours, hein, ça me réjouit, mais j'aurais bien aimé découvrir en plus adulte que c'était vachement malin en fait, qu'il y avait des couches que j'avais pas vues, que j'avais pas compris, des formes symboliques et tout. Je suis sûr que c'est faisable, parce que RG arrive à faire ça. Hein. Dans Tintin, il y a ces strates-là. Bon, maintenant c'est un peu vieillot Tintin pour beaucoup de gens, mais il y avait ces strates-là, des gens de 10 ans qui ont adoré Tintin, les aventures de Tintin et qui ont découvert toutes les strates complexes qu'il y a dans Tintin, qui sont toujours à 60 ans des amateurs de Tintin. Je trouve ça merveilleux, quoi. J'aimerais bien réussir cette chose-là. Mettre dans le même bouquin Watchmen et Goldorak, vous voyez, c'est vaste programme. Bon, je crois qu'on va s'arrêter parce qu'on m'a coupé le micro. Je crois qu'on m'a signalé qu'il était temps que ça se termine.